On va continuer notre méditation sur les qualités bibliques, les qualités que le Seigneur nous demande de développer. Alors on peut ouvrir dans 2e épître de Pierre, on va relire ces quelques versets à partir notamment du verset 5. Nous arrivons à la fin de cette série de méditations, mais on va finir en beauté comme d'habitude avec la parole de Dieu. De Pierre, chapitre 1er, verset 5, il est écrit « À cause de cela même ». Rappelons-nous qu'on est dans cette troisième image, troisième illustration. Il y a le fait de découvrir le Seigneur Jésus, le pardon de nos péchés. Il y a le travail du Saint-Esprit qui change nos caractères, mais notre perspective est d'être une maison accomplie, finie, parfaite. Est-ce que quelqu'un veut habiter dans la première ou dans le premier terrain ou dans le deuxième? Non. Et le Saint-Esprit ne veut pas habiter sur des hommes et des femmes à moitié en construction. Il voudrait tellement pouvoir habiter dans une maison propre, nette, finie, achevée. Et c'est le travail du Saint-Esprit. Mais il nous demande aussi, et d'où la raison de ce verset 5, à cause de cela, à cause de ce travail qui a commencé à être accompli par le Saint-Esprit, alors on a aussi notre part, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Amen. Alors nous avons déjà vu, et on va passer les images les unes après les autres, nous avons déjà vu la notion de la sagesse, la notion de la foi. Tu peux passer les diapos s'il te plaît, merci. La sagesse, la foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, ça c'était la semaine dernière. Et on peut être surpris de voir que à la piété, le Seigneur nous demande d'ajouter à la piété l'amitié fraternelle et après l'amour. On aurait pu se dire, on peut se dédouaner de l'amitié fraternelle, autant tout de suite ajouter à la piété l'amour, et puis l'amour, ça englobe tout, quoi. Mais Dieu est sage, Dieu nous connaît. Alors avant d'aborder la semaine prochaine la question de l'amour, effectivement, on va aborder aujourd'hui la notion de l'amitié fraternelle. Le mot traduit là par cette expression amitié fraternelle, c'est le mot, je vous le dis là, Philadelphie. Voilà. On verra ça la semaine prochaine parce qu'il y a une petite nuance avec ce mot-là. Alors ce mot-là, il a été traduit de manière différente. Certains, dans d'autres passages, parce que la Bible parle beaucoup de cet amour fraternel. Donc voilà, j'ai déjà lâché le mot. De temps en temps, c'est pas forcément traduit par amitié fraternelle, c'est retranscrit par amour fraternel, c'est traduit aussi par communion fraternelle. Mais tout ça, c'est cette relation des uns avec les autres, et surtout la qualité relationnelle les uns avec les autres. Il y a un lien étroit entre notre vie spirituelle et l'amour fraternel. Ils sont indissociables. C'est bien pour ça qu'il nous appelle à joindre à notre piété. On se rappelle, c'était l'attachement à Dieu, le désir d'être collé à lui, de vraiment faire un seul cœur, une même pensée avec Dieu. Et donc, joindre à ça, cette notion, allez, on va dire, et comprenez le mot, je l'exagère exprès, un peu mystique. Faites tous vos efforts pour joindre à cette vie spirituelle l'amitié fraternelle. Notre vie spirituelle, notre foi doit être équilibrée entre un amour entier pour le Seigneur, dévoué, consacré, et une réalité d'un amour fraternel qui doit l'être tout autant. Quand je lis ça, faites tous vos efforts pour rejoindre à la piété, l'amitié fraternelle. Ça me fait penser à Éphésiens chapitre 4 verset 3 où on a la même notion. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit, ok, par le lien de la paix. Le lien de la paix, c'est entre nous. Et ça, c'est quelque chose qui est, on ne peut pas séparer. On ne peut pas séparer notre relation, la qualité de notre relation avec Dieu et la qualité de notre relation avec les uns et les autres. C'est intimement lié. Ce n'est pas pour nous une option, mais c'est une obligation. Rappelons-nous quand même que dans notre société républicaine, il y a un slogan: liberté, égalité, fraternité. Les gens du monde ont réalisé que la fraternité, c'est l'amitié fraternelle, hein, est un fondement indispensable pour bâtir quelque chose ensemble. Alors pour nous, est-ce que c'est une utopie? Parce que, bon, aujourd'hui, liberté, égalité, fraternité, ouais, dans notre société, les gens courent après ça. Réfléchissons que l'amitié fraternelle, c'est une puissance. Le monde aura toujours des difficultés à le vivre. Mais quand il est vécu et que les gens le voient, ils sont interpellés. C'est, n'est-ce pas à l'amour que nous avons les uns pour les autres que le monde verra?
Oui, amen.
Que Dieu est véritablement au milieu de nous. N'aimons pas en parole seulement, mais en action. Et c'est comme ça que nous bouleverserons le monde, mes bien-aimés. C'est par l'action, par l'amour, par les actes concrets, par des rapprochements, par une solidarité, par un partage. Ça, ça changera notre communauté. Et nous aurons une puissance d'influence sur ce monde. Influence bénéfique, hein? Amen.
Amen.
On n'est pas des manipulateurs ni des politiques, mais nous voulons bénir le monde. Oui ou non? Faites tous nos efforts, parce que pour nous, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas un slogan politique, mais ça doit être un défi et une obligation spirituelle. Notre communion vérifie notre réalité avec le Seigneur. 1 Jean chapitre 4, verset 20 dit: si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Arrêtez de nous imaginer: oh, je prie le Seigneur, mais celui qui est en face de moi, je le supporte pas. Eh bien, t'es un menteur. Parce que c'est pas possible que tu dis j'aime Dieu et en même temps que tu cultives de la colère dans ton cœur. C'est pas possible que tu j'aime Dieu et en même temps tu vas insulter telle ou telle personne. C'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? L'amitié fraternelle, peut-être que cette phrase va vous choquer, celle que j'ai écrite en marron. L'amitié fraternelle est aussi importante que la vie de l'esprit. Ils sont étroitement liés. J'ai pas osé le dire, mais l'écrire, mais je vais vous le dire quand même. Je me demande même. Vous avez le droit de ne pas trouver ça juste. Et peut-être que je me trompe dans cette phrase, dans cette formulation. Mais je me demande même si l'amour fraternel n'est pas, dans certaines circonstances, plus importante que les dons, les miracles et autres charismes spirituels auxquels nous sommes appelés à vivre. Pourquoi? Parce que les miracles interpellent, évidemment. Quand quelqu'un vient ici et qu'il est guéri surnaturellement, mais waouh, il dit c'est extraordinaire. Mais j'ai vu bien plus de personnes être touchées en venant dans ce lieu par l'amour qu'il a senti, qu'il a ressenti. J'ai vu des gens qui ont été miraculeusement guéris, mais qui n'ont jamais donné leur cœur au Seigneur. J'ai vu des malades qui être touchés, non pas par la guérison divine, mais par l'amour fraternel, qui se sont donnés au Seigneur. J'ai vu des expériences de dons spirituels s'exprimer, et qui ont été des éléments déclencheurs dans des vies. Mais j'ai également observé et vu des frères et des sœurs qui ont abandonné la foi par manque d'amour fraternel. On a vu des sœurs et des frères être saisis, convaincus par la prédication, avoir le cœur vivement touché, se sentir comme le cœur dévoilé et dire: mais c'est extraordinaire, il y a quelque chose, il y a une onction. Mais j'ai vu des restaurations, des guérisons, même des résurrections spirituelles, non pas seulement par une prédication, mais par un accompagnement spirituel, par un accompagnement amical, par un rapprochement, par une communion fraternelle réelle. Ça, je l'ai vu de mes yeux. Il y a la vie de l'esprit. La vie de l'esprit est là pour marquer, pour souder, pour interpeller, pour sceller. Mais tout ça, s'il n'y a pas l'amour fraternel, ça ne reste pas. L'amour fraternel est quelque chose d'essentiel. Alors, d'ailleurs, il suffit de voir. Faites le cumul dans les épîtres, dans les évangiles, de tout ce qui a trait aux dons spirituels, aux miracles, aux prodiges, et faites la liste de tout ce qui a trait à la communion fraternelle. Et vous allez percevoir que la liste est bien plus longue et les encouragements sont bien plus nombreux à nous aimer qu'à rechercher le miraculeux de Dieu, même s'il ne faut pas le négliger, hein. Il faut y aspirer. Mais l'amour, l'amour réel, la relation entre les uns et les autres est capitale. L'amitié fraternelle, c'est tellement important qu'elle doit être un principe même d'examen de soi-même. Je vous invite à lire 1 Corinthiens, chapitre 11, un texte qui est souvent lu dans le cadre de la scène. C'est Paul qui fait toute une introduction, un développement qu'on ne va pas lire, pardonnez-moi, sur ce qu'on appelle le repas du Seigneur. Il dit, voilà ce que j'ai reçu du Seigneur, faites ceci en mémoire de moi, etc., etc. Mais il y a une introduction, il y a une conclusion à ce développement. 1 Corinthiens, chapitre 11, lisons les versets 17 et 19. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Ça commence bien. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez, on parle bien de la communion fraternelle, hein, que lorsque vous rassemblez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Il rajoute, et je le crois en partie, car il faut, c'est étonnant ça, qu'il y ait aussi des sectes, c'est-à-dire des divisions, parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Alors c'est là qu'il fait après tout le développement sur ce qu'il a appris du Seigneur par rapport à la scène qui a été livrée, etc. Mais continuons et allons un peu plus près de la conclusion. Verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur. Je mets le contexte. La coupe, le pain, c'est les symboles que l'on partage. Et lisez ce qu'il dit. Ainsi, celui qui mange et qui boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi ils mangent du pain et boivent de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui. Alors, notre lecture un peu rapide et souvent résumée à cela nous amène à dire, voilà, il faut s'examiner, il faut être digne, et derrière ce mot digne, on pense surtout à la sanctification. Il faut qu'on soit en règle, il ne faut pas être dans le péché. Si j'ai un souci avec un frère, une soeur, je résous ça. Si j'ai fait de mauvaises actions, il faut que quitte à m'abstenir de la scène, il faut que d'abord que je résous cette situation afin d'être en règle devant le Seigneur, afin que je ne partage pas un jugement contre moi-même. Mais la dignité de quelqu'un ne s'évalue pas seulement sur ses qualités personnelles. On peut être quelqu'un de très droit, de très juste et de très désobligeant. On peut être quelqu'un de très fier de nous-mêmes. Rappelez-vous ce pharisien, « Oh, je te loue, Dieu, de ce que je suis, pas comme cet homme-là. Moi, je jeûne, moi, je prie, moi, je donne mon offrande. Moi, je suis un bon gars, moi. Moi, je suis un gars spirituel. » Et il dit que cet homme, il n'est pas rentré justifié. Alors qu'à côté, il y en avait un qui se frappait la poitrine, qui dit, « Seigneur, sois apaisé envers moi, qui suis un pauvre pécheur. » Et ce qu'il y avait, le hic qu'il y avait dans ce pharisien, c'est qu'il était très bien dans sa vie morale, personnelle, mais c'est justement la dimension amour fraternel qui était complètement échappée. La dignité d'un chrétien ne s'évalue pas seulement sur sa sanctification, mais soyons des hommes et des femmes dignes parce que nous vivons un amour réel. une relation fraternelle chaude, constructive, à l'image de ce que le Seigneur voudrait. Cette expression, celui qui ne discerne pas le corps du Seigneur, dites-moi, c'est quoi le corps du Seigneur ? C'est l'Église.
Oui.
Quand on lit les Écritures, Christ est la tête de l'Église, c'est lui le boss, c'est pas le pasteur. Big boss, l'hyper big boss. Christ est le chef de l'Église et nous sommes son corps. Donc cette phrase-là, celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur. Et on n'est pas en train de parler du Seigneur en tant que tel, Dieu est esprit. Mais en train de dire, celui qui mange et qui boit sans discerner, sans reconnaître le Seigneur, les croyants. Et c'est pour ça que j'aime bien cette traduction. Si quelqu'un mange ou boit en violet la coupe du Seigneur sans reconnaître sa relation, sans reconnaître son appartenance et ce que cela implique avec le corps du Seigneur, attire ainsi le jugement sur soi-même. Alors c'est facile, oh moi je suis un bon chrétien, je fais tout ce qu'il faut. Mais c'est aussi au moment où on partage le pain et le vin, Seigneur merci pour mes péchés, mais je vais aussi m'examiner, est-ce que je suis impliqué dans mon appartenance au corps de Christ? Est-ce que je suis véritablement un sujet de bénédiction pour mon frère, pour ma sœur, pour celui qui est devant, pour celui qui est derrière? Est-ce que je suis là juste en train de manger de prendre ces symboles avec moi et le Seigneur, ou est-ce que je m'évalue également par rapport à ma relation, à mon implication dans le corps de Christ? Un corps, c'est fait de plusieurs petits membres. Et si je pense qu'on mettait un petit cerveau à chacun de nos membres, on aurait des conversations très différentes. Si je prends le rein, je pense qu'il n'a rien à voir, il a des préoccupations complètement différentes que le petit doigt de pied. Chacun doit avoir son petit monde à lui. Chacun doit avoir ses préoccupations, sa fonction. Je ne sais même pas s'ils se connaissent vraiment en fait. Mais imaginez un seul instant que le rein commence à se dire, oh mais moi je suis tellement important. Si j'étais pas là, on verra si tu prendrais du Coca-Cola, toi. Si j'étais pas là. Et puis eux, regarde, ils font rien du tout. Regarde le petit bout de pied là. Il est là, il se pavane, il fait pas d'effort. Si c'est comme ça, moi je m'en vais. Il voit que le rein, il commence à sortir. Il se met à côté. Oui, les autres ne le comprennent pas. Entre les cheveux qui sont là, ils servent à rien les cheveux, hein, franchement, juste faire beau, mettre des barrettes, ça sert à rien. Et toi, là, une fois sur deux, tu vois même pas l'essentiel, hein. Et toi, le cœur, hein, avec les petits problèmes, on est même obligé de donner les médicaments. Moi, je suis le rein. Moi, si j'étais pas là, tous les restes, là, ça servirait à rien. Alors moi, c'est comme si, c'est comme ça. Moi, je m'en vais. Et voilà que le rein commence à partir. Déjà, tous les autres membres seraient très, très contrariés. Et en finalité, qui continuerait à vivre et qui mourrait? Le petit doigt de pied, qui serait triste d'avoir perdu le rein, lui continuerait à vivre. Mais c'est le rein qui, tôt ou tard, finirait par mourir. Celui, et c'est ça le sens de la phrase, si quelqu'un mange, boit, sans reconnaître sa relation, sans reconnaître son appartenance et ce que cela implique avec le reste du corps, il attire contre ainsi le jugement. C'est-à-dire que lui-même, par son choix de se désolariser, le choix de ne pas vivre pleinement cette communion fraternelle, celui de faire sa petite vie à côté sans faire attention au reste du corps, la notion de jugement, c'est la notion de mort, de condamnation. Il s'exclut lui-même, il se condamne lui-même. Je me suis un peu imaginé une église parfaite. Tu peux mettre l'image d'après. Je crois que souvent, on a des conceptions faussées sur l'Église. Quand on découvre le Seigneur Jésus, c'est tellement magnifique. Il transforme notre cœur. On voit, on a cette présence qui est formidable. On découvre l'Église. Vous avez vu comme vous êtes tous beaux et tout beaux, hein, au début là. Oh, ils sont extraordinaires les chrétiens. Et puis avec le temps, oh là 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 là. Ah, si j'avais su. Oh, quelle déception. Non, mais c'est vrai. Il faut le reconnaître. Il y a au milieu de nous des déceptions. Il y a des attentes auxquelles elles ne sont pas répondues. Il y a des limites de la patience de certains. Il y a certains aspects de la vie d'autres. Ah bon, il est comme ça. Au début, on doit même apprendre. Et c'est juste, de temps en temps, à mettre même des barrières avec certains frères et sœurs. D'ailleurs, c'est biblique. Ne mets pas trop souvent dans la maison de ton prochain. Enfin, tu commences pas à lui taper sur le système, ça c'est la traduction moderne. Mais c'est ça. Ne mets pas trop le pied chez ton voisin afin que... N'aie pas l'impression que tu empiètes un peu trop sur sa vie, quoi. Et que comme le miel, il ne finisse pas un peu par... Bon, on va dire, c'est bon, quoi. Donc nous sommes aussi appelés dans la communion fraternelle à avoir, c'est vrai, de la sagesse. C'est tout à fait normal de ne pas avoir les mêmes affinités avec tout le monde. Mais c'est normal. C'est normal. Il y a pas, c'est pas un manque d'amour. C'est des choses normales. Alors je me suis à un moment imaginé une église parfaite. Imaginez que vous ayez dans l'église à laquelle vous voudriez appartenir des super prédicateurs. Non mais vraiment des super prédicateurs du genre Paul, Pierre. Le gars, il prêche 3000 conversions. Pas mal, non? Vous serez fiers de votre pasteur. Hein, notre pasteur, il a prêché 3000 conversions. Paul, le missionnaire, ouais, il est de notre assemblée, vous savez. Il est de chez nous. Barnabas, le frère d'exhortation. Le frère, quand il vous parlait, vous aviez chaud au cœur. Ça commencerait bien comme une église comme ça. Imaginez une église avec des chanteurs et des musiciens. Mais comme David, vous vous rappelez David? Il jouait de la harpe, il y avait une telle onction que même ceux qui étaient remplis de colère, d'agacement, waouh, ils étaient saisis de calme. J'ai rien contre vous les frères. Mais, vous imaginez? Un gars comme David qui composait des chants, que 2000 ans après, 3000 ans après, on continue de chanter. Waouh. Imaginez? Des trésoriers qui seraient super bien placés, recommandés par les meilleures institutions. Imaginez une église où il y aurait tous les dons spirituels, tous. Prophétie, miracle, parole de foi, parole de sagesse. Tous les dons, tous répandus. Chacun aurait un don. Chaque fois qu'on viendrait, on se dirait, ouais, qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? À chaque fois qu'il y a une réunion, paf, les dons spirituels. Ouais. Imaginez, c'est pas fini, qu'il y ait une telle onction dans cette assemblée, que les gens, ils seraient comme saisis de crainte. Pas la peur, mais cette crainte respectueuse. Quand ils viendraient dans ce lieu, ils sentiraient qu'il y a vraiment Dieu au milieu de nous. Forcément, ça aurait les conséquences que la première église a connues. Des centaines de conversions, même des milliers de conversions. Des musulmans qui se convertissent, des catholiques qui se convertissent, des athées qui se convertissent. Toutes sortes de gens, des marginaux, des haut placés, des gens qui rentreraient là par centaines. Waouh ! Mais c'est en ce ni demain ça, alléluia ! Imaginez une telle église. Est-ce que vous voudriez faire partie de cette église? Oui? Alors si vous voulez faire partie de cette église, il va falloir aussi accepter ça. Paul, Pierre, Barnabas sont formidables, oui, mais je vous rappelle que si vous voulez vivre cette église-là, il faudra aussi accepter qu'il y ait des crispations dans l'équipe pastorale. Ah ouais? Ils se sont pris la tête, hein, tous les trois, là. Hein. Et plus d'une fois. Il faudra accepter que... Tu veux faire mes petits points, moi? On a parlé de qui après? Ah, mais oui, que les chanteurs, formidables, talentueux. Ah, un gars comme David, eh oui. Mais imaginez la honte, le désarroi, l'étonnement, parce que vous allez apprendre que l'un d'eux a commis adultère, et même un crime, comme David a fait. Oh, mais c'est pas possible. Avec l'onction qu'il y avait sur lui, le frère fidèle, là. Est-ce que vous avez toujours envie de faire partie de cette église? Il faudra aussi s'attendre à ce que les super représentants administratifs nous appreniez des histoires bizarres. Judas, choisi par Jésus lui-même. Ah, s'il n'y a pas du piston, si c'est pas de la super recommandation, le même gars placé comme trésorier, on apprend qu'il a piqué les sous dans la caisse. Mais attends, mais Jésus, c'est bien toi qui l'as appelé. C'est bien toi qui l'as placé. C'est par le Seigneur, c'est par une révélation que le frère a été choisi dans ce service. Et voilà qu'il met la main dans la bourse. Mais c'est bizarre. Les dons spirituels, ah, oh, ça c'est extraordinaire. Vous savez qu'à Corinthe, la Bible nous dit qu'il ne leur manquait aucun don. C'est formidable, donc c'est possible. Dans la même église à Corinthe, Paul dira qu'il y a une débauche qui existe parmi vous qui n'existe même pas dans le monde. Mais comment c'est possible une église comme ça? Ils vivent des choses extraordinaires. Et Paul va leur dire, mais attends, mais c'est n'importe quoi chez vous. Même dans le monde, on ne fait pas des choses comme vous là. Vous vivez dans l'impudicité, dans l'adultère. Vous dites, je veux en fait faire partie de cette église? C'est pas fini. L'onction. Ah oui, Seigneur, on veut l'onction. On veut l'onction, on veut l'onction. Oh, Seigneur, descends l'onction. Oui, mais à l'époque, vous avez l'onction était tellement forte que quand il y avait des Ananias et des Saphira menteurs, ils ressortaient les pieds devant. Hein. L'onction qui bénit, l'onction, oui, amen. Mais quand la présence de Dieu est là et forte, il ne peut pas non plus tolérer le péché. Et Ananias et Saphira sont rentrés pleins, tout joyeux à l'église, ils sont sortis morts. Et c'est l'onction de Dieu, la présence de Dieu, qui a réglé leur problème. Enfin, le problème dans l'église et qui a réglé leur compte. Oh, Dieu, t'es comme ça. Dieu, l'église. Tout à l'heure, vous étiez plein d'enthousiasme à dire « Ah oui, on voudrait tellement faire partie de cette église. » Et pourtant, avec ces exemples-là, vous dites « Non, on n'aimerait pas faire partie de cette église. » Eh bien, c'est ça. Faites tous vos efforts pour joindre à la piété l'amitié fraternelle. Parce qu'il faut que nous disions oui. J'accepterai encore de faire partie de cette église. J'accepterai que mon pasteur t'entend, il pète des plombs. Mais je vais quand même rester dans l'église. Oui, peut-être que mon frère, il a péché. Mais je ne vais pas l'abandonner pour ça. Je vais prier pour lui, je vais l'encourager. Oui, il y a des choses qui sont mauvaises, malsaines au milieu de nous. Mais ce n'est pas en claquant la porte que je vais résoudre le problème. Faites tous vos efforts pour joindre à la piété, l'amitié fraternelle. Alors évidemment, on le dit tout de suite, hein. Le but n'est pas de cautionner le péché au milieu de nous. Hein. Dieu a traité toutes ces situations. Et le travail, notre travail en tant que chrétien, c'est de nous encourager à la sanctification. Mais c'est vrai que c'est tellement plus facile de dire « Oh, je préfère aller dans cette église où tout est beau, mais là, non, pas dans cette église, tout est terrible. » Mais pourtant, c'est la même église. Ce sont les mêmes cas, ce sont les mêmes personnalités, les mêmes gens. Et il faut que nous acceptions qu'effectivement, au milieu de nous, il y a des situations critiques qui font mal au cœur, des situations qui ont besoin d'être réglées. Mais c'est ensemble que nous devons supporter ça, apporter. Et c'est ça la force de l'amitié fraternelle. Alors l'église parfaite, sans problème, ça n'existe pas. Mais nous devons tendre à cette perfection. L'autre deuxième grande erreur, ce serait de jeter, vous connaissez l'expression, le bébé avec l'eau du bain. Mais l'amour fraternel fait que nous allons éviter ces deux écueils. Oui, je sais que l'église n'est pas parfaite, mais je vais l'aimer quand même. Amen. Oui, il y a des imperfections, il y a peut-être des choses. Vous savez, même Paul a parlé qu'il était en danger dans les églises à cause de faux frères. Vous vous rendez compte? Se dire que dans l'église, il pourrait y avoir des gens qui sont contre la foi. Dans la première église, ceux qui se convertissaient voulaient forcer certaines personnes dans d'autres pratiques, dans des pratiques spirituelles qui n'avaient rien à voir avec l'évangile. C'était dans l'église. Oui, il y a des situations où peut-être on se demandera même nous-mêmes. Mais il est vraiment converti celui-là. Elle est vraiment convertie celle-là parce que franchement, moi je comprends pas. Hein. Mais c'est la réalité de l'église. Mais si nous voulons aller plus loin, il faut joindre à notre piété l'amitié fraternelle. Alors, ce qui est très important, et ça c'est un principe spirituel, c'est que dans la vie, ce ne sont pas les circonstances qui importent, mais ce sont nos réactions. Si c'est vrai pour notre propre vie, c'est vrai pour les autres. L'essentiel, ce n'est pas les circonstances. Les circonstances sont, et en plus, on sait qu'on a le Dieu qui change les temps, les circonstances. Mais ce que Dieu va observer, c'est quelle réaction tu vas avoir, mon frère. Quelle réaction tu vas avoir, ma sœur, devant telle ou telle situation. Les problèmes, on les aura toujours. Des incompréhensions, on les aura toujours. Des frustrations, on les aura toujours. Des doutes, on en aura toujours. Des étonnements, et même l'envie de prendre de la distance, on aura toujours ce combat intérieur. Mais quelle va être notre réaction? Notre interaction doit être animée de cet amour fraternel. Alors, on va voir maintenant quelques principes fondamentaux. J'aime ce verset de Jérémie, chapitre 4, verset 3, qui dit « Défrichez-vous un champ nouveau. » Et on verra la suite tout à l'heure. Défrichez-vous. C'est-à-dire quoi ? C'est nettoyer un champ afin de le cultiver. Et nous devons supprimer du milieu de nous les racines, les épines, les cailloux. Avant de développer la notion de l'amour, de la fraternité, de l'affection, il faut qu'on apprenne à supprimer de nos cœurs tout ce qui est écrit là, les disputes, les jalousies, les critiques, les colères, les comparaisons, les injures. Nous sommes appelés à être jusqu'à la fin de notre jour confrontés à des gens qui sont différents de nous, n'est-ce pas ? Des éducations différentes, des conceptions différentes, des sensibilités différentes. Et donc, il nous arrive sans cesse d'être dans des situations où on ne va pas se comprendre, c'est normal. Oui, c'est important de s'expliquer entre frères et sœurs. Mais s'injurier, c'est autre chose. C'est normal d'avoir des points de tension peut-être avec un frère, avec une sœur. Mais c'est une autre chose que de commencer à élever le ton, à le mépriser, à le critiquer. C'est normal qu'il y ait des situations où on dit, mais c'est bizarre. Encore récemment, je discutais avec Archange, une situation, j'ai dit, mais c'est... il y a des gens, ils sont un peu bizarres. Mais oui, on a droit de trouver les gens bizarres, non ? Ça vous arrive pas, vous ? Il n'y a que moi qui trouve tout le monde bizarre. Franchement, je ne sais pas de quoi vous parlez à la maison, mais reconnaissons que même à la maison, on aime bien discuter des trucs qu'on trouve un peu bizarres chez les autres, n'est-ce pas ? On dit, mais c'est bizarre ! Mais c'est ça l'attitude qu'il faut, c'est savoir en rire. Mais c'est pas forcément critiquer. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, qu'on trouve bizarres chez les autres. Mais, attends, c'est... mais nous aussi, hein, les gens nous regardent et disent, ils sont bizarres, lui aussi ! Dites-vous bien que les gens disent pareil sur vous. Mais c'est normal ! C'est normal ! Ce qu'il faut, ce n'est pas se dire oh non, on est tous beaux, on est toujours gentils, on ferme les yeux, oh bon non, c'est comme ça. Mais on est différent. Et la différence est une force. Ce qui est malsain, c'est quand on commence à stigmatiser, à critiquer, à mettre d'un côté, à mettre des étiquettes sur les gens, à croire qu'ils seront toujours comme ça, qu'ils ne changeront pas, à les regarder de loin sans jamais les aider. Nous avons droit d'avoir des avis différents. C'est même bien, c'est même normal. Mais il y a une différence entre avoir une appréhension étonnée puis le fait d'avoir un sentiment de mépris et de jugement. Il y a ce proverbe qui dit le premier qui parle dans sa cause paraît juste, mais vient après sa partie adverse et on examine. Ça nous est tous arrivé d'avoir une sorte un premier jugement sur une situation. Ah bon, oh, c'est pas normal ça. Bon. Et puis après on a une autre version. Ah d'accord. Et là intérieurement on se dit, ah j'ai peut-être jugé un peu vite. Mais toute la vie c'est comme ça. Et c'est ça que nous devons éviter. C'est normal d'avoir des idées, des opinions, d'être étonné. Mais dans notre cœur on doit éviter tout ce qui est jugement, critique, jalousie. Ne nous comparons pas, on est différents. Et c'est ça qui fait la beauté de l'Église. Bâtissons au contraire ou semons. C'est la suite du verset. Et semons et ne semons pas parmi les épines. Alors semons les bonnes graines. Alors je vous ai mis les références, vous prendrez le temps de le lire. Mais voilà quelques repères, quelques recommandations qui nous sont données dans les épines. Le pardon, soyons spontanés au pardon. Combien de fois est-ce que je devrais pardonner mon frère ? Combien tu dis ?
70 fois 7 fois.
Très bien. 70 fois 7 fois. Et encore. Je ne sais pas si vous aurez l'occasion d'ailleurs de pratiquer autant de fois le pardon. Mais ce n'est pas le chiffre qui importe, mais c'est la mentalité. Nous devons constamment être dans l'attitude. Ok, je te pardonne. Ok, c'est bon. Ça ne veut pas dire qu'on oublie, ça ne veut pas dire qu'on fait comme si on n'avait rien entendu. Mais on ne garde pas rancune. On accepte que l'autre, il se trompe. Et honnêtement, est-ce que ce ne serait pas un peu notre orgueil qui nous empêche de pardonner spontanément ? Vous savez, les gens, ils ont le droit d'avoir de mauvaises opinions sur nous, franchement. Si vous saviez tout ce que je faisais, je ne sais pas si vous me permettriez d'être encore prédicateur. Bon, j'exagère un peu quand même. Mais la réalité, c'est que devant les yeux de Dieu, je suis un homme pécheur. Et que je ne mérite pas le paradis. Et que je ne mérite même pas d'annoncer sa parole en son nom. Nous sommes des êtres méprisables. Devant la sainteté de Dieu. Devant les autres, on commence déjà un petit peu à s'élever. Alors, sachons un peu mettre notre orgueil de côté. Et si quelqu'un nous parle mal, s'il nous juge mal, peut-être qu'il a tort. Mais peut-être que dans d'autres situations, il a peut-être eu raison et personne ne nous a rien dit. Alors acceptons, oui. Acceptons et ayons cette spontanéité au pardon. Ayons cette spontanéité à la patience, à l'empathie. Soyons également prompts à l'encouragement. Galates chapitre 6, verset 2 dit « Portez les fardeaux les uns les autres ». Qu'est-ce que c'est que s'encourager ? Parce que là, on va vraiment rentrer dans la définition de l'amour fraternel. L'amour fraternel, c'est pas juste de dire oh, on est sympa, on est bien ensemble, oh, on a passé un bon moment ce matin. C'est plus que ça, l'amitié fraternelle. Il y a cette notion du pardon, mais il y a aussi cette notion de s'encourager. C'est-à-dire qu'on va s'aider à traverser les épreuves. C'est bien de se taper sur l'épaule, dire bon, à dimanche prochain. C'est bien. Mais quand on sait qu'un frère ou une sœur traverse des moments difficiles, vous verrez que le petit coup de fil dans la semaine pour dire comment ça va, ça aura bien plus d'impact que la petite tape du dimanche matin sur l'épaule. C'est bien aussi, hein. Mais s'encourager, c'est ça la communion fraternelle. Pas la peine de faire des prédications, mais s'encourager, mon frère, ma sœur, allez, prends courage. C'est dur en ce moment, mais on prie, on est avec toi, t'inquiète, t'es pas tout seul. S'encourager, lorsqu'on sait que quelqu'un est dans l'épreuve, alors on encourage à passer le cap. Porter les fardeaux les uns des autres. S'exhorter. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1. Exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous. S'exhorter, c'est s'édifier l'un l'autre, c'est s'encourager à aller plus loin. C'est pousser mon frère, c'est pousser ma soeur, allez, c'est... Et si on allait plus loin avec le Seigneur ? Et si on priait un peu plus ? Hein ? Et si on s'engageait un peu plus ? C'est se pousser mutuellement à aller plus loin avec le Seigneur. C'est ça, s'exhorter. Il ne faut pas attendre la prédication du dimanche matin. Nous sommes tous appelés à nous exhorter, à nous stimuler. À dire, allez, on va aller ensemble plus loin. Il y a des choses que moi, en tant que pasteur, je peux faire. Mais il y a des choses que je ne peux pas faire. Il y a des choses que vous, en tant que frères et sœurs, vous allez avoir l'opportunité de faire que moi, je ne serais pas capable de faire. Et c'est en ce sens-là que la communion fraternelle doit avoir son sens. Pas la peine d'avoir de grandes études, mais juste le seul fait d'avoir le désir de s'encourager mutuellement à aller plus loin. Les paroles vont venir, s'encourager dans les expériences. Et ça, je sais que ça nous est tous arrivé, de parler comme ça, de s'exhorter. Et combien ça nous fait du bien, n'est-ce pas ? Se reprendre. Matthieu 18, chapitre 18, verset 15. Si ton frère a péché, va... Et reprends-le entre toi et lui seul. C'est pas parce que nous sommes frères et sœurs qu'on va fermer les yeux sur le péché de notre frère ou de notre sœur. Si j'apprends que mon frère ou ma sœur, je ne me place pas en tant que pasteur, je me place en tant que chrétien. Enfin, c'est pas antinomique, mais c'est pour me dédouaner d'une certaine responsabilité pastorale. Si en tant que chrétien, je vois mon frère ou ma sœur qui a péché, c'est donc ma responsabilité de dire mon frère, ma sœur, c'est pas comme ça que tu aurais dû faire, tu sais. Je vais pas le casser sur son dos, je vais pas le condamner, je vais pas le dénoncer, je vais pas appeler le pasteur. Oh, pasteur, vous savez ce qu'elle m'a dit. Oh là 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 là. Mais entre lui et moi, on a une conversation d'homme à homme, de femme à femme. Et on dit non, c'est pas comme ça, mon frère. Ce que tu fais, c'est pas bien. Ton comportement avec ton mari, c'est pas bien. Ton comportement avec ton enfant, c'est pas bien. Comment tu as parlé là, au boulanger ? Mais tu crois que c'est normal de parler des gens comme ça ? On a le devoir, non pas de faire la morale à notre prochain, mais de dire, tu sais là, ce que tu me dis là, tu pêches, ressaisis-toi, change d'attitude. C'est notre responsabilité. Il y a même une discipline par rapport à ça. c'est que si effectivement la personne ne se laisse pas toucher dans son cœur et que la personne continue d'être dans son péché, là c'est quelque chose de plus grave. C'est-à-dire que la personne, on peut tous tomber, on peut tous trébucher, on peut tous être comme des David et faire des choses incroyables. Mais c'est pas pour ça que, c'est pas parce que David a péché avec une femme qu'il a péché avec toutes les femmes. Il a péché, il s'est trompé, il s'est cassé la figure. Dieu l'a relevé parce qu'il s'est humilié et il n'a pas recommencé. Et on est tous susceptibles de pécher, tous. Non ? Alors si mon frère persiste dans son péché, c'est-à-dire qu'il n'est plus dans un état d'honnêteté spirituelle. Et là, effectivement, c'est important après d'aller voir le pasteur et dire « Frère, je suis un peu embêté parce que j'ai déjà encouragé mon frère, ma sœur à changer d'attitude, de comportement et ça ne change pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et là, effectivement, on va faire un accompagnement un peu plus important. Mais c'est notre responsabilité de ne pas fermer les yeux sur le péché de quelqu'un. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on va se laisser insulter. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on va laisser des mauvaises habitudes par rapport à la télévision, ou par rapport à des relations, ou par rapport à la boisson, ou par rapport à la cigarette, ou toute autre chose. Nous sommes appelés à vivre dans la sanctification et... s'il y a un cas de péché, effectivement, de reprendre mon frère avec amour, avec tendresse, avec douceur, en l'encourageant à sortir de là, et évidemment, en se dédouanant de tout jugement. Nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres. Hébreux chapitre 10, verset 24, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » S'aimer, c'est prendre soin de l'autre. Prendre soin de l'autre. Même si la personne n'est pas dans l'épreuve, même si elle n'est pas dans le péché, ben on prend soin de la personne, ça va. On prend le temps d'appeler une fois de temps en temps. On va pas attendre qu'il y ait une situation de crise pour se rapprocher. Mais on va veiller les uns sur les autres. En fait, t'en es où dans les études? En fait, tu fais quoi? Comment ça se passe au travail? Ça va pas trop dur là, financièrement? La pression? En fait, j'avais appris la dernière fois que... voilà, t'avais des petits soucis, tu en es où? C'est veiller les uns sur les autres, prendre soin. Est-ce que les mamans ne sont pas là, aimantes à l'égard de leurs enfants? Mais oui, vous êtes là, vous les bichonnez, vous avez petit œil dessus. Mais c'est ça, nous ne sommes pas appelés à nous surveiller. Nous ne sommes pas allés à fouiller la vie des gens, de notre frère, de notre sœur, mais à veiller, à prendre soin. Nous sommes appelés également, selon Jacques chapitre 5, verset 16, à prier les uns pour les autres. Avez-vous, à la maison, une feuille avec tous les noms des chrétiens de l'Assemblée? Est-ce que vous prenez le temps de prier pour eux? Je ne vous donne pas de réponse. Mais la question, elle est là. Priez les uns pour les autres. C'est ça la communion fraternelle aussi. Est-ce que dans le secret de ma chambre, je vais prier pour mon frère, pour ma sœur? Peut-être que je ne vais pas forcément être super inspiré. Mais en ces cas-là, tu dis, Seigneur, tu bénis mon frère, tu bénis ma sœur. Mais on le présente au Seigneur. Et le fait de prier pour les uns, de prier pour les autres, ça va développer. Et ce sera un ensemble. Parce que, en fait, je crois que dans cette liste-là, il n'y a pas un point à retirer. Il en manque même peut-être quelques-uns. Mais apprenons. Et faites-vous à la maison. Petite fiche avec tous les prénoms des frères et des sœurs de l'Assemblée. Et prenez le temps de prier individuellement pour chacun d'entre eux. On va terminer avec les moyens. Je vous invite aussi à tourner vos pages dans Actes chapitre 2. J'ai voulu terminer sur les moyens de vivre cette communion fraternelle avec l'exemple de l'église naissante en Actes chapitre 2. Parce que comme on l'a vu, l'église n'était pas parfaite, mais on voit tout de suite les priorités qu'elle a établies justement pour demeurer dans cet amour fraternel. Alors lisons à partir du verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenez leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Voici quatre moyens simples. La première, c'est l'enseignement et la prière en commun. Ne nous faisons pas d'illusions. Le fait de nous rassembler est un élément fort de la communion fraternelle. Ceux qui disent « Oh, mais moi, je ne fais pas partie de l'Église, je fais partie de l'Église universelle, la grande Église, je n'ai pas besoin de l'Église locale. » Vous perdez la réalité même de l'amour fraternel. C'est facile d'aimer les gens derrière un écran ou à la radio ou quand on ne les voit pas. C'est facile d'aimer les gens comme ça. Non, non, il sort Ephraim. Vas-y, rentre Ephraim. On va pas te laisser sortir. Donc, l'amour fraternel, c'est évidemment, c'est une relation dans l'église locale. C'est là qu'elle doit être. Et ceux qui disent « Ah, mais moi, je viens pas à la réunion. » Et j'ai même entendu des gens qui quittaient l'église et qui disaient après qu'ils se plaignaient, après qu'il n'y avait plus de communion fraternelle. Mais c'est normal. Enfin, c'est du bon sens. Quand le rein va commencer à partir du corps, « Ah, mais on pense plus à moi. » C'est pas qu'on pense plus à ça, c'est toi qui es parti. Il faut avoir du bon sens. C'est pas qu'on te rejette, c'est toi qui pars. C'est toi qui te sépare. On va pas te courir après, tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on t'oblige? Qu'on te fouette? L'église, c'est pas une prison. On est libre de rentrer, libre de sortir. Mais c'est une évidence que quand on quitte la communion réelle, pratique, eh ben on quitte quelque chose de spirituel et d'affectif. Et c'est tout à fait normal. Le deuxième point, c'est l'entraide. L'entraide. Alors, on ne va pas vous inviter à déposer tout votre argent, vos voitures, et puis on va les redistribuer. Je garderai le meilleur pour moi. Mais c'est vrai que l'amour doit être aussi sincère. Si je sais, alors on n'est pas appelé à se dépouiller pour l'autre, on ne va pas se ruiner pour les autres. Mais ça fait partie des éléments qui rapprochent. Si je peux, avec 10 euros, 20 euros, bah aider un frère, une sœur qui est dans une situation difficile, et qu'on peut se le permettre, bah faisons-le. 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 Si c'est pas possible, c'est pas possible. On va pas se culpabiliser, on va pas se rejeter la pierre. Mais c'est un élément qui unit les chrétiens aussi entre eux. Ne négligeons pas aussi cette solidarité matérielle. Et c'était ce qu'ils vivaient. Hein. C'est ce qu'ils vivaient. Ils vivaient quoi encore? Bah des services et des activités en commun. Verset 46. Ils étaient assidus en temple. Faire des choses ensemble. S'attacher à des activités, à des projets. Mais ça unit les chrétiens. Quand on se met d'accord pour faire des choses ensemble, les chrétiens avec lesquels on est le plus proche, c'est les chrétiens avec qui on fait des choses, on partage des choses, matérielles, spirituelles. Avoir des projets, décider de faire des choses ensemble, ça unit énormément les chrétiens. Et le dernier point, tout aussi efficace et pratique et qui était vécu dans la première église et qui n'empêchait pas les problèmes mais qui ont permis de sortir des problèmes et de maintenir une unité, mais ce sont les visites. Aller prendre le café chez Pierre, Paul, Jacques, André, s'inviter, prendre l'audace, dire tiens, et si on déjeunait ensemble? Mais je le connais pas, j'ose pas. Ben justement, c'est l'occasion. Mais c'est ça, on peut pas se connaître si on s'invite pas. Et combien de fois ce que j'ai entendu des chrétiens dire « Oh, j'ai pris le café avec le frère, avec la soeur, oh, on a passé un bon moment !» Ça faisait 5 ans qu'ils étaient dans la même église. Et c'est que, hop, là, au travers d'un repas, une invitation, qu'ils se sont découverts, qu'ils se sont appréciés et qu'ils ont continué à s'encourager. C'est des choses de bon sens. Mais si on ne met pas ces 4 points de bon sens simples, accessibles, alors évidemment, la communion fraternelle sera toujours une belle illusion, peut-être une utopie, mais nous en perdrons également spirituellement. Ce que Dieu veut, c'est que nous grandissions, que nous persévérions dans l'amour fraternel. Amen. Amen. Et relisez, je vous invite par exemple à lire la première épître aux Thessaloniciens. C'est extraordinaire comme Paul accentue beaucoup sur la communion fraternelle. Il dit, vous aimez déjà ? Mais continuez encore. Et il donne plein de conseils comme ça. Il dit, c'est formidable, on apprend combien vous vous aimez, mais continuez à vous aimer davantage. Et ça, c'est vraiment une force de l'Église. Amen. Amen. Que effectivement, la joie et la simplicité de notre cœur se ressentent dans tout ce que nous faisons et dans notre relation les uns avec les autres. Amen.